On va aller parler maintenant avec la mairesse Christine Black de Montréal-Nord, parce qu'on en parle depuis quelques semaines. Là. Les événements impliquant des armes à feu se multiplient dans certains secteurs de Montréal. Et Montréal-Nord fait partie de ces secteurs-là, là où il y a une recrudescence, disons, des épisodes de fusillades. Pensez à l'est de l'île, le nord-est de l'île. C'est un problème de sécurité publique qui fait peur à plusieurs résidents. Madame Black, bonsoir.
Bonjour,
M. Lagacé. Donc, OK, là, je sais que vous avez demandé à la Ville d'investir immédiatement 3 millions de dollars pour les OBNL, là, les organismes sociaux qui s'impliquent auprès des jeunes et aussi pour les effectifs policiers. Comment ça a été reçu par l'équipe de la mairesse Plante?
Mais en fait, ça a été une motion qu'on a déposée au conseil. C'est comme une proposition qu'on fait à l'administration. Et en fait, malheureusement, on n'est pas arrivé à une entente. Donc, à l'heure où on se parle, je n'ai pas eu de confirmation finalement qui disait que l'administration Plante allait de l'avant avec un investissement chiffré. Donc, il disait oui qu'il voulait investir, mais il ne voulait pas nécessairement le chiffrer. Donc, vous comprendrez que moi, je suis déçue aujourd'hui parce que c'est maintenant qu'on en avait besoin. Là, je compte le redéposer au prochain conseil, mais vous comprendrez que c'est très décevant dans les circonstances qu'on connaît actuellement.
OK, mais Mme Black, là, vous connaissez mieux le jeu politique que moi. Là. Si la motion n'a pas fait l'objet d'un débat aujourd'hui, là, vous devez bien savoir pourquoi. Là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis à l'ordre du jour au conseil municipal?
Ben, en fait, parce que ce qui est arrivé, c'est que l'administration Plante voulait qu'on ait une entente avant qu'on le dépose à l'ordre du jour. Donc, moi, de bonne foi, je me suis dit, OK, parfait, on va pouvoir en parler ensemble puis s'entendre pour quelque chose. Ils l'avaient depuis le week-end avec eux. Par contre, finalement, après discussion, il n'y avait pas de montant, ils ne voulaient pas chiffrer, etc. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, moi, je ne voulais pas le déposer parce que finalement, eux autres, ils allaient dire, oui, on va financer les organismes, mais sans mettre de montant. Et actuellement, l'urgence, elle est justement à ce qu'il y ait des sommes qui soient dégagées pour faire en sorte que les organismes, dans les prochaines semaines, puissent embaucher plus de ressources. L'enjeu, c'est les ressources. Donc là, pour les organismes communautaires, il n'y a pas de chiffre en ce moment qui arrive. Donc, les sommes qui vont atterrir dans les quartiers demeurent toujours inconnues. En ce qui concerne la SPVM, aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles comme quoi il y avait une réorganisation des ressources et qu'il allait avoir des équipes là, qui allaient être dédiées justement dans les quartiers du Nord-Est. Donc ça, pour moi, c'est rassurant. On voit que ça va dans le bon sens, mais du côté de l'administration, actuellement, je n'ai pas de confirmation finalement de financement pour nos partenaires communautaires.
OK. Est-ce qu'il y avait une lettre dans la presse aujourd'hui qui était signée par des spécialistes des problèmes sociaux, spécialistes de criminologie? Je vais vous lire la première phrase là, de la lettre qui est signée par la professeure Jade Bourdage, Carl Beaulieu et Ted Rutland. Et voici ce qu'ils disent de ce qui se passe aujourd'hui à Montréal. « Nous assistons actuellement à la construction d'une panique morale autour d'une prétendue prolifération des armes à feu dans les quartiers du nord-est de Montréal. Cette panique est alimentée par le SPVM, les élus municipaux et les médias. » Comment vous avez réagi en lisant ça ce matin?
Ben c'est toujours surprenant de voir ça parce qu'en même temps les citoyens ici chez nous c'est pas ce qu'on voit hein puis on a beau dire que on se fait des histoires finalement c'est pas plus ce que je comprenais de l'article avec tout ça mais en même temps les armes elles sont là les coups de feu sont réels et d'ailleurs dans la motion c'est ça qu'on voulait aussi demander donc il y avait les deux éléments que vous avez mentionnés mais aussi d'avoir accès aux données du SPVM à savoir combien que coups de feu combien que d'incidents dans les quartiers à Montréal pour pouvoir avoir leur juste parce que est-ce que effectivement c'est ponctuel ce qui arrive actuellement ou bien c'est une prolifération des armes à feu? Mais ce qui est clair actuellement, c'est qu'il y a des incidents armes à feu, il y a des gens qui décèdent dans des incidents armes à feu, puis ça, dans les dernières années, on voyait pas ça. Donc, par la force des choses, une équation qu'on fait, là, c'est logique.
OK. Vous, les citoyens de Montréal-Nord, là, de votre arrondissement, ils vous en parlent, ils vous interpellent là-dessus?
Ben c'est clair, ça inquiète les gens. Puis ce qui arrive, c'est que dans le passé, il y avait des incidents, parce que bon, on a notre lot de défis à Montréal-Nord, on se le cache pas, là, on le sait. En même temps, dans le passé, ça se déroulait surtout dans l'est de l'arrondissement, mais dans la dernière année, ce qu'on a remarqué, c'est entre autres dans le centre et dans l'ouest aussi de l'arrondissement. Et bon, on le sait qu'il y en a dans d'autres quartiers aussi, d'autres arrondissements autour de Montréal-Nord. Donc, c'est certain que le fait que ça évolue, que ça change de quartier, que ça se passe parfois en plein jour près des écoles, c'est sûr que les parents, les citoyens, les adultes, n'importe qui, finalement, est préoccupé par ce qui arrive. Donc, c'est tout à fait normal. Personne veut avoir une balle perdue ou vivre dans des quartiers qui ne sont pas sécuritaires. C'est le cœur de travail qu'on fait, puis c'est pour ça qu'on vient vivre dans un quartier, parce qu'on veut être bien. Là.
Dans cette lettre-là, on peut lire aussi les mots suivants. Là. Mieux reconnu et financé, les organismes et initiatives locales pourraient se consacrer aux enjeux de marginalisation que les jeunes subissent. Ça rejoint un peu ce que vous espérez pour les OBNL de votre ville.
Absolument. Absolument, oui, parce que ce qu'on sait, c'est que les jeunes, en fait, quand ils sont dans leur période d'adolescence, c'est des moments critiques où ils sont en train de forger leur identité, puis c'est là qu'ils ont besoin beaucoup de monde autour d'eux. Là, quand on parle du filet social, là, que ce soit à l'école qu'il y a des activités parascolaires, du milieu communautaire qui amène d'autres activités en dehors des heures, la fin de semaine, pour qu'ils développent leur talent, qu'ils apprennent à se connaître, et surtout qu'ils ne se fassent pas recruter par d'autres groupes qui sont plus dans la rue. Donc, c'est toujours ce jeu-là de pouvoir, entre guillemets, là, qui est en place. Et nous, dans le fond, il faut être plus solide, plus fort que la rue, puis plus attractif. Donc, ça demande des ressources, ça demande des personnes qui sont présentes pour faire en sorte que le jeune prenne un chemin, finalement, qui n'est pas celui de la criminalité. C'est ce qu'on souhaite tous. Là.
Madame Black, vous êtes la mairesse de Montréal-Nord. C'est un milieu que vous connaissez bien. Vous avez été, si je ne m'abuse, là, vous avez été travailleuse de rue dans ce coin-là, travailleuse communautaire.
J'ai été directrice d'un organisme jeunesse, effectivement, dans le quartier. Ça fait en fait presque 20 ans que j'y suis. Puis, c'est un quartier qui... Puis, si je peux me permettre, M. Lagacé, j'en profiterai sur vos ondes pour dire que Montréal-Nord, ce n'est pas juste ça non plus. Hein. C'est un quartier que les gens apprécient énormément. Mmh. Et pour les citoyens, de se voir dépeindre comme ça constamment, c'est très difficile. Et pour moi aussi qui y habite, là, c'est très difficile parce que dans le quotidien, c'est pas que ça. Hein. Notre quartier, on a des citoyens extraordinaires, une solidarité, beaucoup d'entraide. Puis c'est ce qu'on voit justement en ce moment, que tout le monde veut être ensemble pour dire faut qu'on fasse face à ça. Puis faut pas que notre quartier se dégrade dans le fond, parce que c'est notre milieu de vie, c'est celui qu'on aime surtout là.
Évidemment, mais j'allais vous demander, le premier réflexe des gens quand on voit qu'il y a des épisodes comme ça plus nombreux de fusillades, de circulation d'armes, là, c'est de demander à la police de faire son travail, de créer des escouades, d'essayer de trouver où sont les guns, etc. Vous dites qu'il faut pas juste faire ça, faut aussi intervenir auprès de la jeunesse, mais expliquez aux gens qui nous écoutent là, comment intervenir auprès de la jeunesse va changer quelque chose à un problème d'armes.
Bien, en fait, c'est surtout parce qu'il y a une attractivité en ce moment avec les armes. C'est ce qu'on comprend là, avec le fait que les jeunes s'équipent, etc. Mais ils s'équipent pourquoi? Parce qu'ils ont peur de d'autres, ils ont peur de représailles, etc. Alors que quand un jeune est occupé à il se développe dans le sport, il se développe dans les arts, parce qu'on a plusieurs artistes dans le quartier, mais à ce moment-là, c'est certain qu'ils ne gravitent pas dans ces environnements-là et ça fait en sorte que ce milieu-là, le milieu de la rue, le milieu criminel ou marginal, avec tout le contexte marginalisé, n'est pas aussi attractif parce que le jeune est occupé à faire autre chose. Donc, dans ce contexte-là, c'est certain que ça a une influence. Puis, au-delà de ça, pour les jeunes qui sont impliqués dans cette démarche-là qui est plus criminelle, disons ça comme ça, à ce moment-là, quand ils ont quand même des personnes autour d'eux, un certain filet social avec des travailleurs de rue, entre autres, mais ça leur permet à certains moments, le travailleur de rue peut travailler justement à influencer le jeune, puis à lui dire, est-ce que c'était la bonne chose? Puis il y a des moments critiques où, par exemple, quand il y a des incidents avec armes à feu ou quand il y a des décès, mais ça amène le jeune ou le jeune adulte à se poser des question, à dire « Hey, je veux-tu continuer là-dedans ou pas? » Donc, c'est des moments charnières où on peut justement intervenir puis faire en sorte que le jeune va prendre d'autres voies que celle-là.
Merci beaucoup, Mme Black.
Bien, merci beaucoup.
Bonne soirée.